Aujourd'hui, la masterclass d'Éric Ruff avec Mathilde Serrel.
On peut lever le rideau, vous êtes d'accord ?
Je vous en prie.
Éric Ruff, merci d'avoir accepté de participer à cette grande collection, cette grande série de masterclass qui est organisée par France Culture. On va circuler dans votre parcours artistique pour en révéler peut-être pas le mystère. Il faut toujours mystère garder. Mais le processus créatif, les convictions esthétiques, sachant qu'on vous connaît au moins 5 métiers d'artiste. Le comédien, bien sûr, engagé comme pensionnaire à la Comédie Française à 23 ans, sociétaire 5 ans plus tard, convoquant sa force délicate dans tous les grands rôles masculins, chez Molière, Hugo, Claudel, Racine, Molière, Rostand, pour ne citer que, le metteur en scène, enchanteur de Peer Gynt, d'Ibsen en 2012, relecteur de Roméo et Juliette en 2016 de Shakespeare, le scénographe, le décorateur, complice des mises en scène de Denis Podalydès, ouvrant toujours plus d'espace de jeu, et bien sûr, le patron, l'administrateur de la Comédie Française depuis 2014, jardinier strabique. Pour reprendre l'une de vos expressions, Éric Ruff, j'espère qu'on aura l'occasion de l'éclairer, un œil dehors, un œil dedans, pour cultiver tout ce qui fait grandir le premier théâtre de France que vous servez depuis 24 ans. Mais commençons par le commencement. Le cœur de tous ces métiers, c'est le théâtre. Quand est-ce que vous êtes avoué que c'était votre espace ?
Je fais partie, comme tous les gens qui font ce métier, de ceux qui ont commencé à faire du théâtre à l'école. J'ai commencé en cinquième, parce qu'il fallait un Gavroche sachant faire du patin à roulettes. Et avec des cheveux blonds. J'avais les deux qualités. À cette époque-là, je savais faire du patin à roulettes et j'étais blond. Et j'ai continué parce que ça m'a intéressé. Je crois, comme tous ceux qui ont été hameçonnés à ce moment-là, c'est la forme de la pédagogie était différente. Voilà, tout simplement. Et puis, l'espace de liberté que ça donnait me retirait un petit peu de la longueur de cette ville de province dans laquelle j'étais. Donc, j'ai fait ça jusqu'à la terminale. Et puis ensuite, mais c'était pas une vocation du tout. Ensuite, j'ai voulu faire du dessin. Je me suis fourvoyé dans... Enfin, ça, je m'en suis servi. Ensuite, j'étais en art appliqué, mais il a fallu me spécialiser. J'étais en publicité surface, voilà, où on faisait du logotype à longueur de journée. Là, je me suis aperçu que je m'étais fourvoyé, que c'était pas ça que je voulais faire. Donc, j'ai voulu revenir par le biais de la scénographie déjà. À la comédie, en me disant peut-être que c'est ça qui me plaît, et je me suis inscrit, mais il était tard, j'avais 20 ans déjà, donc je me suis inscrit à l'école Florent, voilà, et puis finalement en jeu et pas en scénographie, parce que je faisais une scénographie pour des amis qui faisaient un atelier, et puis à force de revoir des gens sur le plateau, j'ai eu envie de recouper avec cette histoire-là. Je me suis inscrit, et puis ensuite c'est parti un petit peu très vite, parce que j'étais comme j'étais un dilettante et j'étais un faux paresseux, c'est-à-dire quelque chose me faisait peur dans les études et dans le savoir et dans le fait d'essayer de maîtriser les choses, donc je tournais autour de ces bouées sans oser les toucher, et puis par le biais du théâtre, tout d'un coup, je me suis mis à travailler, je me suis mis à m'apercevoir que j'avais toutes les qualités qu'il fallait pour être un grand travailleur, donc j'ai travaillé beaucoup et immédiatement ça s'est enclenché et ça s'est vérifié. Ça a été un tel big bang intime que d'avoir le fruit de mon travail et de ne plus me poser de fausses questions que je me suis dit c'est ça, voilà. Et puis ça a été confirmé aussi, j'ai eu la chance de travailler très vite, professionnellement je veux dire.
Oui, vous aviez même pas fini la troisième année au conservatoire que Jacques Lassalle déjà vous engageait pour faire Don Juan. C'était d'ailleurs Avignon, représentation pour la Comédie Française. Vous avez renoué ce lien plus tard, on y reviendra, mais puisqu'on est dans la vocation, on peut continuer sur la racine. Ce qui m'intéresse, c'est la voix, VOIX d'Éric Ruff, qui a ce timbre particulier, grave, nuancé. Comment est-ce que on la trouve ? Non, mais c'est une vraie question. Sa voix d'acteur, et particulièrement chez vous, parce que c'est un point de repère. Je crois que même vous l'êtes cassé à un moment, vous avez du mal à la retrouver.
Je crois que les voix qui ont des défauts sont des faiblesses jusqu'à un certain âge et ensuite ça devient une espèce de marqueur et ça devient une qualité, alors qu'on n'a pas fait grand-chose pour la changer. Moi j'avais une voix très blanche, ce qu'on appelle une voix blanche, une voix très soufflée. pour des histoires que j'ai réussi à m'expliquer un petit peu par le biais d'une psychanalyse à un moment de ma vie. Mais cette voix-là, on me la reprochait, je n'arrivais pas à la timbrer, tout bêtement. Elle était coincée partout dans le ventre, dans la poitrine, dans la gorge. Et je la fatiguais beaucoup, évidemment. Et j'avais des rôles, et les rôles de jeunes premiers sont toujours des rôles où les pauvres personnages apprennent très très tard ce qui leur arrive, évidemment. Et donc ils sont en réaction seulement et je n'arrivais pas à placer ma voix. C'est venu petit à petit, mais sinon la voix telle que vous la décrivez, moi je ne l'entends pas. Je fais partie sans coquetterie aucune. Je ne m'engagerai jamais moi. Voilà. Là, je parle à la radio.
En tant qu'administrateur de la Comédie Française, vous ne seriez pas recruté comme pensionnaire. Et bien alors, sociétaire encore moins.
Non, mais parce que je suis très amoureux des voix claires, pas univoques, mais des voix qui sont capables de t'écrire une chose avec un trait extrêmement pur. Et je trouve que la mienne trimballe des brouettes de. Alors c'est peut-être ces brouettes-là qui sont intéressantes, mais moi elle m'intéresse pas et je trouve que ça brouille le message, voilà. Mais encore une fois, on m'avait dit un jour, tu verras que les critiques vont être très dures avec toi jusqu'à 30 ans, et puis dès que t'es encore là à 30 ans, ben les gens se disent bon ben voilà, il est là, donc les critiques deviennent positives. C'est la même chose sur la voix, voilà. Ce qui encore une fois, ce qui est un défaut est devenu une qualité. Et les gens me parlent de temps en temps de ma voix en la reconnaissant. Il paraît que de jeunes pensionnaires m'imitent magnifiquement. Donc j'ai une voix qui peut s'imiter, tant mieux.
Il y a une application Éric Ruff. Hein.
Ah, très bien,
je suis ravi. Puisqu'on est dans l'Éric Ruff comédien, qui ne se serait donc pas engagé, encore moins programmé à la Comédie Française. En parlant de jeu, vous avez pu citer Paul Claudel. Il ne faut pas comprendre, il faut perdre connaissance. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? C'est une impression, contrairement à tout ce qu'on a pu penser, qu'un comédien doit donc se déconcentrer, c'est ça ?
Oui, ah ben c'est la clé pour le comédien, mais c'est la clé, je crois, pour le théâtre, enfin, dans une certaine acception. Vous parliez de mystère tout à l'heure, moi il n'y a que ça qui m'intéresse au théâtre, c'est-à-dire que les explications du monde sont tellement nombreuses, on veut tellement tout le temps, toujours expliquer les choses, nous en donner les clés, les éléments de langage, etc. Le théâtre m'intéresse parce que c'est plus confus, c'est plus prolixe, c'est plus ombré. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la vérité du monde dans le théâtre par un détour incroyable qui est d'un faux absolu. Mais dans ce faux-là, on retrouve quelque chose de vrai. Et ça, c'est une chose qui m'intéresse. Mais en tant qu'acteur, effectivement, la déconcentration est une clé. Quand j'étais jeune pensionnaire, j'étais quelqu'un d'extrêmement sérieux, donc ai-je beaucoup changé. J'étais persuadé qu'il fallait savoir son texte au cordeau, bafouiller était une honte absolue, c'était péché. Donc je faisais des ce qu'on appelle des italiennes, je me remémorais mon texte incessamment avant de rentrer en scène, et je voyais des sociétaires qui racontaient des blagues aux pompiers de service, qui stoppaient la blague, qui rentraient jouer un bout de tragédie et qui revenaient en coulisses pour finir la blague. Et je trouvais ça honteux. Je me disais, mais comment peut-on faire quelque chose? Quel irrespect par rapport au public, etc. J'étais très, très idiot. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était ça la clé et qu'il faut ne pas se concentrer. Alors, il y a tout un travail à faire pour que la maîtrise soit là. Mais une fois que la maîtrise est là, le hic et nunc, la vie, le théâtre, pourquoi les gens viennent au théâtre? C'est quand même pour voir des éclats de vie. Donc, à partir du moment où on prépare tout, il n'y a pas d'éclat de vie. Il faut arriver avec une partition, mais se permettre absolument toutes les appoggiatures et puis laisser rentrer les toux du public, laisser rentrer le fait que le camarade ne va pas dire la phrase comme d'habitude, ça s'appelle le jeu simplement, et ça, ce mystère-là et cette clé-là de non-concentration, elle est forte, oui, elle est belle.
Comment est-ce que ça peut passer concrètement, cet effort de déconcentration avant d'entrer sur scène? J'ai vu que vous avez travaillé avec Anatoli Vassiliev et que plus rien n'a été comme avant, après votre collaboration avec ce metteur en scène russe, et ces méthodes qui vous ont poussé à faire beaucoup de tai chi, je crois. Il vous a tyrannisé. Et d'ailleurs, vous n'en tenez pas rigueur, parce que vous l'avez reçu en tant qu'administrateur, vous l'avez programmé avec un Duras, la Musica, en 2016. Par quelle méthode ça passe, la déconcentration de l'acteur?
Chez Vassiliev, c'est...
chez Vassiliev, ça a l'air assez spécial.
Chez Vassiliev, c'est assez simple. Je sais pas si vous connaissez ce truc de vous appuyer fortement sur un mur pendant 10 minutes et si vous vous retirez du mur, vous avez le bras qui monte automatiquement. Vous avez contraint quelque chose et après cette contraction, il y a une liberté qui arrive. Je crois que c'est la technique de Vassiliev. Il vous colle pendant 3 mois contre le mur. Donc, au bout d'un moment, quand vous commencez à jouer, il y a sans doute une légèreté qui arrive. Je l'ai compris tard, et c'est toujours une chose un peu bizarre à accepter quand on est acteur, mais notre travail quand on est acteur, tout ce qu'on peut mettre d'intelligence, de maîtrise du texte, de l'oralité, de la pensée, de la dramaturgie, etc., c'est 10% de ce qui se passe. Et encore, je suis généreux. Les 90% de ce qui se passe, c'est ce qui arrive sur le plateau avec la voix que vous avez, le corps, l'animal que vous êtes, la typologie de personnage que vous trimballez malgré vous. Et c'est ça qui joue avant tout. C'est ça qui fait bouger les boules de billard sur le plateau. C'est ça qui crée le jeu. Il faut l'accepter. Une fois que vous l'acceptez, finalement, vous êtes très très léger parce que vous vous apercevez que cette chose-là, bon ben voilà, vous avez pas à la cultiver. C'est la manière ensuite de les 10% vous pouvez travailler, mais c'est très soulageant de le savoir.
On peut parler aussi avec Denis Podalydès avant d'entrer en scène des résultats du foot. J'ai vu que c'est un truc qui vous aidait à vous déconcentrer pour aller en scène.
Denis est très intéressant pour ça. On le sait tous. Je crois que quand on se concentre sur quelque chose. C'est peut-être des questions de conformation de cerveau, j'allais dire. Moi, il y a rien de pire si vous me mettez dans une pièce en disant personne va te déranger, tu as ton ordi, t'inquiète pas, est-ce que la lumière te va, etc. Je suis pris une angoisse absolue, c'est-à-dire que l'effet de concentration me déconcentre. Si vous me mettez dans un café où tout le monde vient de parler, où il y a de la musique, des gens qui parlent, etc., j'arrive profondément à travailler. Il me faut ces conditions-là.
Alors, Éric Ruffo, en tant que metteur en scène, parce que je faisais allusion à votre Roméo et Juliette, donc présenté l'année dernière, dont vous signez mise en scène. Scénographie et décor dans ce cas précis de Roméo Juliette qui est une pièce qui a un vernis très épais qui est presque sarcophagé par la culture populaire qui entre au répertoire du français en 1920 qui n'avait pas été joué depuis 1952 à la salle Richelieu donc quand vous ouvrez le sarcophage par où vous passez est-ce que vous avez des lectures des documentations, des réflexions qui vous ont aidé à trouver je crois le soleil noir dont vous avez parlé qui était caché dans Roméo et Juliette.
Ce Roméo et Juliette, je l'ai relu parce que je cherchais un titre, voilà, pour équilibrer quelque chose dans la saison de la Comédie française. J'avais besoin d'un titre, voilà, que tout le monde connaissait. Alors Roméo et Juliette, évidemment, ça se pose là, dans cette catégorie. Je l'ai relu et en le relisant, j'ai été extrêmement étonné de lire des scènes que je n'avais pas du tout en mémoire, de lire des caractères de personnages qui m'étonnaient franchement, de voir une rudesse, de voir une violence, un non-romantisme. Enfin voilà. Donc il suffit de lire cette chose-là et d'essayer de le suivre et de surtout de ne pas essayer d'atteindre encore une fois au fantasme collectif. La scène du balcon de Roméo et Juliette qu'on décrit comme étant tout le temps une grande scène d'amour, c'est une grande scène de dispute. Ils ne s'entendent pas du tout et là où Shakespeare est très très fort et nous décrit à travers les siècles. Et ce pourquoi, d'ailleurs, ça fait énormément rire les jeunes générations, c'est qu'il décrit très très bien la différence d'engagement lorsqu'il s'agit d'amour entre une jeune femme et un jeune homme. Et je crois que ça n'a pas totalement changé, cette chose-là. Et c'est ça qu'il décrit, et on n'a pas retenu cette chose-là, on a retenu de cette scène du balcon qu'elle serait exceptionnelle d'amour, de romantisme, etc., alors que le fond de sauce n'est pas ça du tout, du tout, du tout. Et quand bien même on voudrait, avec le texte de Shakespeare, atteindre à ce fantasme collectif de la grande scène d'amour, ben il faudrait changer tout le texte.
Ce cœur de Shakespeare sur une scène qui est une scène de dispute et cette différence d'engagement entre une jeune fille et un jeune homme, vous le révélez finalement par le décor, par la scénographie, fondamentalement cette scène du balcon, parce que Juliette, non seulement elle est provocatrice, désirante, et surtout elle est extrêmement exposée. On a une image de la scène du balcon comme d'un balcon protecteur. Or vous avez fait un mur vraiment à pic, sur lequel Juliette se tient en équilibre. Et là, donc, c'est le scénographe, c'est l'ancienne étudiant faiseur aussi de l'école Olivier de Serres, qui trouve cette astuce. Vous avez dit, là, je vais dire quelque chose du texte. Enfin, quand vous avez trouvé cette idée?
Mon seul muscle de scénographe, c'est de trouver des espaces qui provoquent du jeu ou qui laissent les acteurs libres. Il n'y a rien de pire comme enfermement qu'un balcon. Parce qu'un balcon, une fois qu'on y est grimpé et qu'on apparaît, ben on a quoi ? On a un mètre carré pour se déplacer. Ça va quand même pas loin, cette chose-là. Donc le balcon en soi est une chose. Et j'ai tourné autour de cette idée-là. Je demandais aux gens, mais c'est quoi ce balcon ? Et ils me disaient tous, mais tu sais, à la fin, il va l'embrasser. Alors je disais, mais non, mais ça, c'est Rostand. Ça, c'est Christian et Roxane. Et dans la pièce de Shakespeare, d'où, encore une fois, ce fantasme de balcon, cette espèce de cumul et de mélange entre le balcon de Rostand et le balcon de Shakespeare, ça prouve bien qu'on a des choses dans la tête qui sont pas très précises. Voilà, c'est choses comme ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui fait peur ? Il a été dans une fête où il aurait pu se faire lapider par la famille d'en face. Il n'est pas manchot. Il a grimpé deux murs de verger. Il l'a déjà embrassé deux fois. Il l'a rencontré. Qu'est-ce qui l'empêche de grimper ? Et puis, au bout d'un moment, j'ai regardé une gravure du globe. Et puis, au globe, il y a un balcon où il y a des musiciens, etc. Dans l'architecture même du théâtre élisabétain de Shakespeare, il y avait simplement ce balcon. Et je pense que Shakespeare a dû dire, on en a marre de vous voir à plat. Tiens, bah, Juliette monte là-dessus. Et puis, Roméo vient en dessous. Je pense que c'était une logique aussi. Mais quand vous ôtez le balcon, vous avez l'ensemble du public qui viennent vous voir en disant, c'était formidable. Mais quand même, pourquoi avoir ôté la grande scène du balcon. Peut-être que tout le monde l'attend. Donc, je me suis débrouillé en faisant tomber le balcon et en laissant une corniche. Voilà. C'est-à-dire en me disant que peut-être que quelqu'un qui est sur une corniche est dans un danger, puis to fall in love, le fait de tomber en amour, la chute abîmeuse, le fait... C'est passionnant ces histoires d'amour au théâtre parce qu'à chaque on est des animaux pas réducteurs mais on aime bien se faire du bien donc on veut toujours se raconter que l'amour est doux, que l'amour est formidable, il est en compréhension, ça fait du bien. On recherche toujours ça, ceux qui sont pas capables de connaître l'amour sont vraiment mais alors vraiment tu loupes quelque chose alors que on le sait quand même nous que j'aime bien le terme anglais, tomber en amour. Quand on tombe, ça fait mal. Et puis, la personne que l'on aime, c'est jamais celle qu'on avait prévu d'aimer. On est toujours surpris, il y a toujours un saisissement, mais pas le saisissement magnifique du coup de foudre, le saisissement de la viande sur la plaque, enfin, un truc qui... Ça nous prend. Et je trouve que les poètes et le théâtre, si on veut bien le lire dans ce sens-là, nous ramènent à cette réalité un peu sauvage que nous connaissons tous, mais sur lequel, je ne sais pas par quelle défense, on met des couches de bien-pensance et de magazines pour penser qu'on maîtrise toute cette chose-là. Donc, il m'intéressait d'ôter ce balcon et de laisser simplement la suspension parce que c'est dangereux. Et évidemment que l'amour dans Roméo et Juliette, et le danger est augmenté du fait qu'il est interdit, évidemment.
Alors, on le voit avec simplement ce mur, cet apic, cette corniche, ce geste scénographique, tout ce qu'on peut déplier de votre regard sur l'amour, y compris en termes de cuisson et les cruffes. Mais dans cette masterclass aussi, on peut continuer sur le métier scénographe. J'annonçais ces différents métiers d'Éric Ruff. Scénographe, lorsque vous n'êtes pas vous-même à la mise en scène, dans vos collaborations, par exemple, avec Denis Podalydès sur Cyrano de Bergerac, comment ça se passe, comment ça se déclenche? Parce que là, pour le coup, voilà, vous n'êtes pas allé au cœur du texte chercher ce qui vous intéressait comme trait, mais là, vous dialoguez avec lui.
Dans le cas de Denis, on se connaît tellement avec Denis, on s'est amusé. Il y a quelques rapports possibles au théâtre. On peut se mettre en scène, on peut jouer ensemble, on peut être scénographe d'un metteur en scène, on peut être le metteur en scène d'un scénographe, etc. Et je crois qu'avec Denis, on lit... On essaye de sentir en lisant, on lit tous les personnages et on essaie de sentir en lisant quel est l'espace dont la scène a besoin. Et puis, moi, j'essaye toujours de faire en sorte, parce que dans le processus, pour ceux qui l'ignorent, le décor est la chose qui doit se décider le plus à l'avance. Avant les costumes et évidemment avant la rencontre avec les comédiens, voire même avant le casting. Parce que les ateliers, c'est long, parce que c'est cher, parce qu'il faut acheter les matériaux, il faut les construire, etc. Il y a un bureau d'études, il y a plein de services qui travaille sur un décor. Et donc, de temps en temps, on nous demande de déposer des maquettes un an avant la première. Ça peut arriver. Donc, un an avant la première, on est loin de savoir ce qu'on va faire. Parce que l'imaginaire, il fluctue pendant un an, et puis parce que surtout, la rencontre avec les acteurs, et fort heureusement qu'ils sont là, les acteurs, parce que nous, les metteurs en scène, on rêve des choses, et puis fort heureusement, on a un buvard chimique qui va réagir, qui est l'acteur, et de temps en temps, il y a des acteurs, Suliane Brahim, Juliette, par exemple, elle est formidable pour ça, parce qu'elle... elle n'aura jamais la politesse de rentrer dans une porte si la porte n'est pas faite pour elle. Et c'est un formidable truc pour les metteurs en scène, parce que moi, quand j'étais acteur, jeune acteur, je n'osais pas dire ce qui me dérangeait, parce que je ne me l'autorisais pas. Je me disais, j'ai pas la science de ça. Si on me le dit, c'est que c'est vrai, etc. Et de temps en temps, je me retrouvais à devoir faire quelque chose que je sentais profondément pas juste. Et puis la première validait cette erreur, et je jouais 60 fois une erreur. Et ça fait mal au bout d'un moment, parce que c'est dur de devoir le faire. Et Suliane, par exemple, elle est formidable, parce que quand c'est faux, alors elle me dit pas c'est faux, elle ne le sait pas comme ça, mais elle est rétive. C'est un formidable signe, parce que je me dis, ah, je suis en méthode Coué, je veux absolument que mon idée soit la bonne, et en fait je me suis gouré, il y a quelque chose, ma coupe n'est pas bonne, ma conception n'est pas bonne, le décor n'est pas bon, il y a quelque chose qui va pas. Donc je reconsidère la chose, et à la fin, je lui colle une bise en disant, merci, tu m'as aidé, parce que je n'avais pas vu cet éléphant dans le couloir. J'étais tellement, depuis un an, à me dire tout se passe comme ça, voilà. Donc, j'essaie de faire en sorte dans les décors, s'il y a une porte, j'essaie d'en créer 15. Pour que le jour où on sera sur le plateau, on ne soit pas coincé par un décor muraille de Thèbes, et que je ne sois pas obligé de dire à Denis, bah écoute, pardon, mais tu m'avais dit qu'il y avait une porte à court, tu l'as, donc voilà, moi j'ai fait mon travail. J'essaie toujours d'ouvrir. Donc je fais des boîtes à jeux.
Peut-être... Dans le cas de Cyrano de Bergerac, par exemple, si...
Ben dans le cadre de Cyrano de Bergerac, c'était simplement le fait que Rostand, il est évident qu'il connaissait les acteurs, il est évident qu'il connaissait les petits métiers du théâtre, il est évident qu'il connaissait l'avant-représentation, mais du point de vue des coulisses. Tout la première partie, avant que Cyrano ne sorte de sa malle pour interrompre la chlorise, c'est juste une description d'amour de Rostand sur les spectateurs de théâtre, l'attente, les trois coups, le petit panier, on peut acheter un croissant, un truc comme ça. Et nous, on connaît ça avec Denis et à la Comédie Française. Comme c'est de l'alternance, vous savez qu'il y a un décor qui est démonté le matin pour remonter celui de l'après-midi. Au terme de cette répétition, on redémonte ce décor-là pour remonter le décor du soir. Donc la plupart du temps, il y a trois décors différents qui sont montés et démontés par jour. Et il y a ce qu'on appelle la salade, c'est-à-dire qu'on descend une ferme d'un cintre et puis on le met sur une autre porteuse pour libérer celle-ci en jeu. Et nous, on voit ça. Parce qu'on est là dans la salle à se donner des notes entre nous, puis d'un regard discret, on voit ce changement. Et moi, je me suis toujours dit, et Denis aussi, que ce changement, de temps en temps, c'est le spectacle le plus réussi de la journée. Voilà. C'est, il faut se le dire, parce que les autres spectacles ratés, on travaille pendant des mois, et celui qui s'organise sans que personne ne l'organise, il est d'une poésie, il est d'un bouleversement, il raconte ce métier, il raconte le monde d'une manière... plus précise. Donc on s'est dit, mais il y a ça. Et puis quand on est semainier, à la Comédie Française, quand on est sociétaire et qu'on est au comité d'administration, on a cette charge-là d'être semainier. Donc pendant une semaine, on regarde tous les spectacles pour être garant de leur tenue artistique. Donc on regarde ou bien du foyer des artistes, ou bien de la salle, évidemment, ou alors de la coulisse. Donc la coulisse, on regarde d'une manière transversale. Et souvent, les images que l'on voit, qui ne sont pas préparées pour cet angle-là, sont infiniment plus belles. Encore une fois, limétrisées. On parlait de déconcentration et de concentration. Dans cet art de théâtre, il faut toujours avoir les différences, il faut toujours maîtriser et savoir totalement lâcher. Il faut apprendre et désapprendre, et il ne faut pas comprendre, il faut perdre connaissance. C'est-à-dire, au bout d'un moment, il faut perdre la connaissance qu'on a cultivée pour qu'elle ne nous encombre pas. Voilà. C'est le truc d'après. C'est toujours ce qui est un petit peu compliqué à expliquer aux jeunes générations qui pensent toujours qu'il ne faut rien apprendre pour être libre. Et on dit... De manière, il y a quelques anges de théâtre qui sont capables de ça par génération, mais tous les autres, il faut travailler pour connaître tout, et au bout de cette connaissance, on peut commencer à être dans une chose qui n'est pas maîtrisée, mais qui est profonde, parce qu'elle a quand même le souvenir, le reliquat de toute cette connaissance. Mais le théâtre, c'est du... On est des animaux, c'est ce qui est très intéressant dans ce métier, Pour exemple, ça me fascine comme scénographe. Il y a rien de plus difficile à faire que de la végétation au théâtre. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un décor pour le Pré-au-Clair, l'opéra comique, et je voulais des arbres. Et les décors ont été faits en Italie. Et en Italie, les décorateurs étaient directement dans la nature. Donc, ils ont été moulés directement sur des arbres pour avoir une sculpture d'écorce absolument véritable. Parce que et c'était assez magnifique. Parce que si vous demandez à un sculpteur de le faire, le sculpteur, au bout d'un moment, on ne peut pas s'empêcher, nous les hommes, de faire des séries. Donc au bout d'un moment, le tronc, il commence à pas ressembler comme dans la nature, parce que dans la nature, il n'y a pas de série. On commence à voir que quelqu'un l'a fait. Et nous, on est tous comme des chiens, quand on est des animaux, comme des chiens, et si le tronc, on le sent pas naturel, on va pas s'approcher, parce qu'on sent que quelqu'un nous attend derrière. Donc il y a quelque chose de très rétif là-dessus. Et c'est pareil pour faire des feuilles, c'est ça le plus dur, parce que les feuilles, maintenant, on n'en fait plus en Europe, hein, des feuilles en tissu ou en plastique, quel que soit, on n'en fait plus. Donc on attend les conteneurs qui arrivent de Chine, et dès que les conteneurs arrivent, tous les opéras et toutes les maisons de théâtre d'Europe se précipitent dessus. Sauf que dans les conteneurs, vous avez deux tailles de feuilles. Et quand vous faites un arbre avec deux tailles de feuilles, bah c'est pareil, vous sentez que c'est faux. Ça fait totalement opératique. C'est pas juste, parce que ça n'existe pas dans la nature. Et vous apercevez que finalement, si vous mélangez des essences de feuilles différentes qui n'existent pas dans la nature, et ben finalement, vous, en tant que spectateur, vous allez quand même reconnaître une chose plus vraie. Donc par le plus grand des mensonges, on va récupérer quelque chose de l'ordre de la vérité.
On est là presque dans cette expression de jardinier qu'on a évoquée au début de cette masterclass, Eric Ruff. Jean-Pierre Vincent, il a été administrateur de 83 à 86 aux Français. Il disait que c'était le deuxième job le plus difficile de France après Matignon. Et alors vous l'abordez donc avec cette approche de jardinier. Alors on a compris que sur la végétation au niveau du plateau, comment ça pouvait s'incarner, mais concrètement dans le métier, que ce soit le recrutement des pensionnaires, que ce soit la programmation, évidemment, les entrées au répertoire, comment ça se traduit ce métier de jardinier, Eric Ruff ?
Je parlais de ça parce qu'il y a une alternance historique quand le président de la République choisit l'administrateur général de la République française, il prend ou bien quelqu'un qui a été acteur dans cette maison, ce qu'on appellerait un jardinier, ou quelqu'un qui arrive de l'extérieur après avoir administré des grandes maisons de théâtre, etc., et pour lequel la Comédie française est comme une cerise sur le gâteau d'une fin de carrière, qui s'appellerait un paysagiste. Voilà, j'ai essayé de décrire les deux qualités. L'idéal, c'est d'être un jardinier paysagiste. Le jardinier connaît absolument l'essence du jardin, connaît la manière dont l'humus réagit aux saisons, sait exactement l'historique du jardin, etc. Mais de temps en temps, il n'ose pas le changer parce qu'il sait que c'est l'arrière-grand-mère qui a mis ses hortensias, il sait que c'est l'oncle qui a planté ce truc-là, etc. Donc on ne touche pas parce que tout est bien. Et le paysagiste, lui, il arrive et il voit très bien que l'ombre de ce grand arbre est totalement infertile pour ce qu'on a mis en dessous, que si on met là, ça prend toute l'eau de ça, donc il a tendance à dire on ôte ça, mais de temps en temps avec une violence qui peut être infertile aussi, parce qu'il peut, ne sachant pas comment ça réagit, faire des coupes qui seraient définitives et malsaines. Donc il faut essayer un petit peu d'avoir les deux. Et quand je parlais de strabisme, c'est juste parce que il faut avoir un œil à l'intérieur, notamment parce qu'il y a une troupe à gérer, et que le grand problème de la troupe, et la troupe est un avantage absolu pour le directeur que je suis, parce que c'est une matière vivante exceptionnelle, et que surtout c'est une maison dans laquelle les acteurs sont administrateurs d'une certaine manière, parce que c'est une société de coopérative d'acteurs qui a de quoi voter ou ne pas voter un budget, donc ils sont intéressés à la manière de faire de ce théâtre, et donc j'ai en face de moi, ce qui est formidable, des gens qui comprennent le temps du théâtre. C'est pas des gens qui vont me demander dans 6 mois des résultats, c'est des gens qui savent très bien que influer quelque chose sur un public, le changer petit à petit, l'augmenter petit à petit, changer l'image d'une maison, ce sont des choses qui se font sur 2-3 saisons. Et autant les politiques ne sont plus du tout dans ces temps-là, parce que ça va tellement vite maintenant, j'en suis à mon 4e ministre de la Culture, par exemple, donc ça va toujours très très vite, tandis que les acteurs, eux, connaissent...
Vous êtes le 20e administrateur de... Il y a une pensionnaire qui dit que vous êtes son 20e administrateur aussi.
Absolument.
Ça doit être de sens.
Mademoiselle Gisèle Casadesus.
Exactement, Gisèle Casadesus. Voilà.
Et pour le strabisme, il faut aussi que j'ai un œil à l'extérieur. Donc voilà, j'ai un œil à l'intérieur avec la troupe et puis tous les services, savoir comment ça marche, comment la troupe, je parlais de difficultés, c'est une difficulté passionnante à résoudre et c'est une équation impossible, mais le métier d'acteur n'est pas juste, n'est pas équitable. Pourquoi est-ce que je travaille et pourquoi un de mes camarades de conservatoire ne travaille pas? Pourquoi je fais cette carrière et pas lui? Il n'y a aucune raison objective. Quand vous jugez du travail d'un acteur, il n'y a aucune faute grave. Vous ne pouvez pas qualifier ces choses-là. Donc, chaque acteur le sait, cette chose-là. On sait que c'est des métiers solitaires. On sait, malgré tous les collectifs qui existent partout, on sait que sa vie dans le théâtre, on la fait seule. Mais comme c'est une troupe, il y a un fantasme d'équité qui arrive, qui voudrait compenser cette inéquité par le fait que tout le monde aurait le même temps de travail, ce qui est absolument impossible, ou le même temps, comme le CSA, sur les paroles politiques, chacun aurait le même temps de parole sur les plateaux, ce qui serait absolument impossible. C'est des vœux pieux. Mais il faut tout le temps que je rappelle à ces comédiens que entre l'essence même et leur désir, on peut naviguer un petit peu, mais qu'on ne s'arrêtera jamais dans aucun port, il n'existe pas. C'est des destinations qu'on peut estimer, mais c'est même pas la peine d'essayer de les atteindre.
Donc ça, c'est le capitaine de la Comédie Française qui parle, et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que vous vous mettez aussi en jeu, puisque lorsque vous devenez administrateur en 2014, vous allez donc présenter une mise en scène Roméo et Juliette 2 ans plus tard. Donc pourquoi, au-delà du faire et de ce besoin de toucher dont vous nous avez parlé, Eric Ruff, c'est important pour vous d'aller peut-être aussi à la bataille, au front, de montrer au sein de la troupe ce que vous faisiez, vous, en tant que metteur en scène?
On dit souvent que le pouvoir s'incarne. On parle de temps en temps des présidents en disant il est présidentiable et l'autre ne le serait pas avant même qu'ils aient eu un bout d'idée. Alors dans un théâtre, les idées d'incarnation sont évidemment évidentes, mais la chose qui m'importe moi le plus, c'est que mon premier métier c'est d'être acteur. C'est pas tant que ce serait une dope qui me manquerait, et il faudrait absolument que j'aie ma dose assez régulièrement, sinon je vais pas bien, c'est pas ça du tout. Je crois que si on désigne un acteur, metteur en scène, scénographe à la tête de cette maison, c'est bien pour qu'il puisse la penser depuis le plateau et depuis la réalité. Et puis le jeu, on me demande souvent, est-ce que ça te manque pas de jouer? Et réellement, non. Je le fais toujours avec un grand plaisir, mais non, parce que, encore une fois, pour ce que je tentais de vous expliquer, j'ai toujours l'impression de faire du théâtre, à quelque position que ce soit. Donc, le fait de jouer est juste un outil particulier, mais comme j'en ai d'autres sur ma table, je prends les autres et tout va bien. Mais je me suis aperçu, en fait, que quand on est responsable et qu'on fait des blagues, vos blagues sont toujours interprétées. Voilà. Et pourtant, moi j'ai joué avec... Alors maintenant, il y a des jeunes pensionnaires que j'ai engagés qui ne me connaissaient pas en tant qu'acteur, et donc pour qui je suis l'administrateur. Mais tout le reste des gens, moi j'ai joué avec eux. J'ai joué avec eux, donc j'ai fait des blagues de première, de dernière, de seconde, de 23e. Enfin voilà, j'ai fait des blagues. Et de temps en temps, même des copains de conservatoire, quand tout d'un coup je les croise à la cantine et je leur disais, dis donc, c'est pas possible, je t'ai vu hier, mais c'est vraiment, tu peux pas continuer à jouer comme ça, il faut... Et ça les fait marrer, et de temps en temps, 6 heures après, ils viennent dans mon bureau en me disant, tu plaisantais tout à l'heure, ou voilà. Parce que je suis tout le temps soupçonné d'un message subliminal, parce que c'est comme ça, c'est de la hiérarchie. Mais quand je joue, je me suis aperçu que quand je rejoue, je peux faire toutes les blagues du monde. Elles sont totalement innocentes parce que c'est le plateau. C'est là qu'on a le droit de faire du jeu italien, les blagues les plus pourries, parce que c'est presque organisé pour, voilà. Donc ça fait du bien aussi, parce que je peux faire de grosses bêtises au plateau que je n'ai pas le droit de faire ni avant ni après.
Donc vous faites de la mise en scène aux Français en plus de votre métier d'administrateur pour pouvoir faire des blagues.
Pas la mise en scène, le jeu.
Le jeu. Et la mise en scène parce que ça vous permet aussi d'échanger avec les acteurs et de trouver aussi
absolument
dans ce rapport de jeu au plateau. Pour revenir sur justement le métier d'administrateur et la conception de la programmation, on remarque par exemple, c'est vous qui avez convaincu Arnaud de Plechin de passer au théâtre, sachant que je crois que vous avez fait une liste de tous les cinéastes ayant essayé de faire du théâtre et s'étant lamentablement planté. Vous l'avez convaincu, il est parti sur Père de Strindberg. Vous avez également ont fait entrer un texte de Gaël Marcus, grand critique rock, sur Bob Dylan, comme une pierre qui. Est-ce que le cinéma, la musique, ça vous nourrit? Et qu'est-ce que ça a comme place chez vous, Éric Ruff?
Tous les arts sont amoureux les uns des autres. C'est une espèce de donne fondamentale. Certaine manière que le théâtre s'intéresse, qu'on fasse des cabarets, parce que l'acteur a envie de chanter. Il n'a pas la voix lyrique, mais il a cet avantage formidable de savoir raconter l'histoire à l'intérieur de la chanson. Donc le Green Marcus, tout d'un coup tourné vers cette chose-là. Et puis c'est aussi parce que j'ai des jeunes pensionnaires qui jouent magnifiquement de la guitare. Je ne pourrais pas le faire s'ils n'étaient pas musiciens, s'ils ne se faisaient pas des bœufs entre eux, s'ils n'avaient pas cette culture-là, rock qui est la leur et sur laquelle ils sont très pertinents. Si Sébastien Poudroux et Stéphane Verhupen n'existait pas, je n'aurais pas été chercher des gens pour faire le Grill Marcus, c'est parce qu'ils étaient là et que tout d'un coup, oui, il y a cette possibilité-là. Pareil pour les cabarets, si Serge Bagdassarian est capable de faire des cabarets aussi magnifiques que l'Interlope, c'est parce qu'il a toute cette culture-là et c'est parce que c'est un chanteur absolument incroyable et c'est un chanteur d'âme et d'intelligence. Enfin, voilà, il a un acteur chante différemment. Il a une limite, mais d'un autre côté, il a une qualité absolue. Et le théâtre et le cinéma, ce sont alors là, c'est Arnaud Desplechin pour Ivo Van Hove ou Christiane Jatailly dans La Règle du jeu, c'est comment par le médium des caméras, de la représentation en direct, comment on essaye de bouger le temps de la représentation, comment est-ce qu'on propose une espèce de tour de passe-passe temporel comme ça au spectateur en pré-enregistrant des choses, en faisant semblant que c'est dans le présent. Donc cette espèce de fracture où le hic et nunc, le ici et maintenant est perturbé, c'est aussi des techniques de cinéma qui arrivent au théâtre. Ce sont des essais, des modes. Moi, le théâtre et le cinéma, les captations que font France Télévisions, ce que Pathé Live essaye de faire avec les enregistrements en direct de la Comédie Française aussi, on tourne toujours autour de la même chose. C'est que pareil, le cinéma aimerait bien essayer de capter quelque chose de l'ordre de l'ici et maintenant du théâtre. Mais quand je parlais d'animaux, on vient quand même chercher ça au théâtre. Pourquoi est-ce qu'on se déplace? On a tout à la maison, on a 200 chaînes à la maison, on a des chaînes sur les chevaux, on a des chaînes sur l'opéra, sur le théâtre, sur comment coller des boîtes de balsa pour faire des avions, enfin on a tout à la maison. Donc pourquoi est-ce qu'on va encore au théâtre écouter des textes, réécouter des textes, de temps en temps mal assis dans des salles où les générations grandissent, on a les genoux pliés, on est entre des gens qu'on connaît pas, si on veut se lever on peut pas parce qu'on dérange tout le monde, donc quand on s'ennuie c'est 3 heures, on en prend pour 3 heures, mais on y va quand même parce que il peut se passer un truc, encore l'éclat du réel, il peut se passer un truc tout d'un coup qui nous réunit tous parce qu'on le vit dans le même moment. Et je crois que tous les animaux que nous sommes, on aime bien. On est à la chasse de cette chose-là. À chaque fois qu'on a un problème à la Comédie Française parce que quelque chose se passe, un acteur n'est pas là, ça arrive, on le remplace au pied levé. Et il y a un copain qui prend la brochure et on fait une annonce. Et ben, les gens, ils sont debout à la fin parce qu'ils ont vécu, ils y étaient. Comme des vieux grognards de Napoléon, j'y étais. À cette représentation qui était exceptionnelle, c'est moi qui étais à ce moment-là. La plus belle sonnerie de portable que j'ai eue dans ma carrière, c'était sur le Misanthrope, dans Philinte. Et dans un silence qui était dans la mise en scène, où j'étais face publique et j'étais censé réfléchir comment essayer d'expliquer à ce jeune couillon d'Alceste qu'il faut un petit peu mettre de la philosophie dans la vie et qu'il y a des compromis sans compromission, etc. Il y avait un grand temps et dans ce temps-là, j'entends une sonnerie d'une puissance dingue, personne n'osant l'arrêter. Je pense que la personne essayait d'étouffer le portable dans son sac. Et je devais dire ensuite des mœurs du temps, mettons-nous moins en peine et faisons un peu grâce à la nature humaine. Et il y a eu un éclat de rire, et toute la réplique, elle était là-dessus. Et je pense que les gens n'ont jamais entendu cette réplique mieux que grâce à cette sonnerie portable. Évidemment que Molière n'y a pas pensé, j'ai même reçu un courrier où il y a quelqu'un qui m'a demandé si elle était dans le spectacle, cette sonnerie. Et ben cette chose-là, c'est quand même ça qu'on vient chercher. Donc le cinéma ne le donne jamais, cette chose-là. Donc théâtre et cinéma sont... comme quand on explique aux enfants les lignes parallèles, on a beau les rapprocher le plus possible, les fasciner l'une par l'autre le plus possible, les mettre dans la même direction, elles ne se toucheront jamais à cause de cette chose-là qui est le live, voilà, le présent.
Vous parliez aussi de musique avec des jeunes pensionnaires, joueurs de guitare. Ça, c'est votre côté jardinier. Hein. Vous êtes passé dans les allées, vous avez vu que ça jouait de la guitare et donc vous avez proposé ce Grail Marcus sur Bob Dylan. Mais il y a aussi beaucoup de musique dans Roméo et Juliette. Il y a une relecture de la culture populaire italienne. Il y a comme ça une science de la musique chez Eric Ruff qu'on connaît peut-être moins.
Chez tout acteur, vous avez ça. Alors certains comme moi ont eu la chance d'avoir des parents qui les ont obligés à apprendre le solfège et à faire de la pratique instrumentale. Moi, j'ai joué du basson. Alors je n'en
Votre
joue plus
frère
beaucoup.
Du hautbois.
Mon frère du hautbois, le basson n'était pas un instrument soliste extrêmement simple à déplacer. Donc je n'en fais plus, mais au conservatoire, on a des cours de chant, on a des cours de musique, et encore une fois, la fascination des uns pour les autres. Nous sommes quelques-uns metteurs en scène, aller faire de la mise en scène au lyrique, et c'est pas simplement parce qu'on nous le propose, c'est parce que s'approcher des chanteurs est une chose. Moi, je vous parlais de mystère tout à l'heure, mais les chanteurs, je suis stupéfait, parce que un acteur, sa voix va généralement toujours à peu près avec son corps. Il y a à peu près quelque chose qui, on est rarement étonné. Les chanteurs, des gens que vous voyez, tout d'un coup, ils se mettent à chanter, mais on se dit, mais ils sont plusieurs à l'intérieur. Ils ont mangé un dieu. Il y a quelque chose. On s'approche de ça pour essayer de comprendre comment ça s'incarne, comment ça se fait. Donc la musique, c'est pas tant moi, c'est qu'il y a tellement d'acteurs qui sont intéressés par la musique, qui sont des spectateurs, des mélomanes, des auditeurs que je n'ai qu'à essayer d'organiser à peu près cette chose-là en disant ben il y a des cabarets, vous pouvez chanter. Je sais qu'il y a tellement d'acteurs qui chantent au théâtre. Si on peut mettre de la musique en live dans le Pergune, j'avais la chance d'avoir 5 musiciens et j'avais la chance d'avoir toute une troupe de gens qui voulaient bien chanter, accompagner a cappella, etc. Et dans le public, moi j'aime bien le théâtre généreux. On dit tout le temps qu'il y a plein de formes de théâtre. C'est vrai qu'il y a plein de formes de théâtre. Quand on joue Lucrèce Borgia, on ne présente pas le même théâtre que quand on joue les Danais. C'est, je pense, les mêmes spectateurs, mais ça ne fait pas appel à la même chose. Mais je n'ai aucune des considérations, au contraire, pour le théâtre qui fait du bien aux mirettes, qui fait du bien aux oreilles, qui fait du bien au cœur, qui fait du bien au plaisir aussi, à savoir que il y a des décors, c'est spectaculaire, il y a du jeu, c'est généreux, c'est pour ça que j'adore Hugo, par exemple, parce qu'il y a du drame, il y a du rire, il y a de très beaux costumes, en plus ils chantent, si en plus ils se mettent à danser. On en a eu pour notre argent. Enfin, j'aime bien aussi bêtement cette notion-là de spectacle. On y va aussi pareil de concentration, de déconcentration. Moi, je trouve toujours que quand on dit aux gens attention, hein, c'est sérieux, on va vous délivrer un message. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Je trouve que c'est pas simple. Moi, à chaque fois, j'y vais, je dis, oh là là, qu'est-ce que je dois comprendre, ne pas comprendre? Est-ce que je suis bien disposé? Qu'est-ce que c'est que ce signe, etc. Tandis que quand on me dit, vas-y, prends plaisir, c'est souvent là que ça me fait réfléchir le plus. Toujours ces histoires de concentration, déconcentration. Moi, j'ai joué Shakespeare au français, puis je l'ai joué pas au français. Et j'ai vu d'une certaine manière la différence physique, parce que comme Shakespeare, on essaye, il y a toujours des allers-retours entre je joue une scène et j'en fais immédiatement le commentaire avec le public. Donc il y a un aller-retour qui fait que dès qu'il y a un nez de scène et dès qu'il y a une séparation entre la salle et la scène, et dès que c'est le sociétaire du français qui est censé être maître des vers libres shakespeariens, etc., du décasyllabe, ben, il y a quelque chose qui est impressionné et qui n'arrive pas à connecter. Alors que dès que vous êtes sur un plateau à plat, comme ça, ou dans un bifrontal, ben, il y a quelque chose qui s'échange beaucoup plus vite. Donc il y a aussi des lois physiques qui sont pas simples. Les théâtrales italiennes, quand même, ils sont magnifiques pour un certain répertoire, mais pour d'autres, ils sont très impressionnants. Il y a un rideau de fer, je dis ça tout le temps, c'est pas le même rideau de fer qu'on a eu en Allemagne, mais rien que le nom impressionne, c'est comme un pare-feu. Voilà, c'est censé protéger le public ou la salle s'il y a un départ de feu. Mais quand vous voyez la différence entre le velours, le rouge, la rondeur des balcons, les pampilles du théâtre à l'italienne, dès que vous passez, moi j'adore cette séparation-là, ça se passe sur 10 centimètres à peine, vous arrivez dans la cage de scène et on a l'impression que c'est un monde de travail griffé, on a l'impression qu'il y a un ours qui s'est énervé dans une cage, alors qu'avant c'est... Totalement, la différence entre les deux est dingue, et c'est pas facile de mettre la main à travers le miroir. C'est pour ça que il m'intéresse, oui, le travail d'Ivo Van Hove m'intéresse parce que tout d'un coup, ne serait-ce que parce que voilà, la caméra vient chercher le public, donc le public se voit filmer, se voit être intégré dans le dispositif. Le fait que Christiane Jataï, tout d'un coup, s'amuse dans des choses qui sont un peu effrayantes pour le public, moi je trouve très gourmande, à savoir que pour mettre en scène une soirée ratée, elle laisse supposer à un moment aux gens qu'ils assistent à un spectacle raté pour donner vraiment ce sentiment-là avant d'être récupéré, mais elle ne travaille que là-dessus. Elle va justement essayer de percer ce miroir-là pour que la différence entre scène et salle s'estompe un petit peu. Quand Julie Deliquet sur Vania, au Vieux Colombier, s'autorise sur la traduction, sur le texte de Tchekhov, une certaine liberté d'improvisation sur le texte, alors pas sur ce qu'il dit, mais sur la manière de l'aborder, voilà. C'est pour ça que ça s'appelle Vania et pas Oncle Vania, parce qu'elle se permet une sorte d'adaptation, mais pas une adaptation littéraire, une adaptation d'improvisation, de frisli verbal, comme ça. Ben, le grand bonheur, c'est que tout d'un coup, on assiste à la pièce et on ne la reconnaît pas. Parce qu'elle nous est présentée autrement, on a l'impression que ça improvise, on ne sait pas exactement comment ça a commencé ou pas. Comme il n'y a pas les structures, le personnage sort, un autre rentre, on se dit « Ah d'accord, la scène est finie, il y a un changement d'acte, etc. » Comme elle se permet de laisser des personnages qui logiquement ne devraient pas être là, ben, tout d'un coup, la grande scène du 3, elle nous arrive, mais comme un chat qui nous saute dessus, on ne l'a pas vu venir parce que on n'a pas vu les coutures. Et des pièces qu'on connaît par cœur, tout d'un coup, elles nous sont représentées parce que justement, elle perce et elle va nous chercher, elle fait en sorte que la présentation soit différente et que ça nous surprenne. Voilà.
Vous évoquez le travail de Christiane Jataï sur La règle du jeu, celui de Julie Deliquet sur Vania, d'après Oncle Vania de Tchekhov. Il y a beaucoup de metteuses en scène qui viennent avec la programmation conçue par les Cruyff. On peut aussi parler de Katharina Thalbach pour La résistible ascension d'Arturo Huy de Brecht. C'est quelque chose qui s'est imposé à vous en tant qu'administrateur. C'était un objectif fixé au départ, cette présence des femmes qui est manifeste dans la programmation, Eric Ruff.
Non, c'est pas fixé. Y a deux choses pour expliquer ça. Le fait que, au théâtre, malgré cette injustice profonde, crasse, qui fait que vous avez dans n'importe quel club, théâtre de collège, à peu près 28 filles pour 2 garçons, et que quand vous devenez professionnel, vous avez 28 rôles d'hommes pour 2 rôles de femmes. Voilà, cette inversion-là, elle est terrible. Et en plus, et je le dis sans forfanterie, les femmes sont plus douées pour ce métier que les hommes. Elles ont plus de talent, je trouve. Donc voilà, cette chose-là. Mais moi, par exemple, j'ai eu plus de professeurs femmes au théâtre que d'hommes. Donc l'effet de parité ou l'effet de qui a l'autorité de dire un homme serait quand même plus à même de le dire par rapport à une femme, c'est un peu bon. Au théâtre, on n'a pas ça du tout. À la Comédie Française, toutes les doyennes sont des femmes. Alors ça, c'est une autre injustice qui nous concerne, nous les hommes, on meurt plus vite. Donc les doyennes sont plus régulières que les doyens. D'une certaine manière, nous n'avons pas de différence du tout de salaire entre hommes et femmes. Donc c'est pas tant qu'on a lutté pour ça, c'est que c'est un métier dans lequel ça se partage beaucoup. Et puis toutes les scènes d'amour sont toujours à deux. Donc déjà on travaille ensemble. Et puis c'est aussi simplement parce que moi je reçois beaucoup, je vais voir beaucoup de théâtre, mais je reçois aussi beaucoup de propositions, je rencontre beaucoup de metteurs en scène et de jeunes metteurs en scène, et force est de constater, alors peut-être que ça appartient qu'à cette génération et que la génération suivante ne sera pas comme ça, mais j'observe que les jeunes femmes qui rentrent dans mon bureau pour exposer des projets sont formidablement campées, communicantes, à l'aise, talentueuses, et que j'ai qu'à dire ouais, ça m'intéresse. Voilà. Marie Raymond, Julie Deliquet, Maëlle Poésie, Louise Vigneault, voilà, qui sont toute une génération de jeunes metteuses en scène que je suis, que j'observe. Je n'ai pas à me dire ce serait bien, on va me féliciter de prendre des jeunes filles. Je les trouve les plus douées. Voilà. Quand je vois un jeune garçon qui est tout aussi doué, je le prends aussi, je ne me l'interdis pas. Donc je dis tout le temps que d'autres ont fait le travail avant moi, sans doute, avec sans doute beaucoup de courage et peut-être un volontarisme qui était décrit par les uns et les autres comme violent, pas normal, etc. Sauf que moi, j'ai le luxe d'être juste le témoin d'une évolution. Voilà. Et qui au théâtre est sans doute plus rapide que dans d'autres milieux, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de machisme au théâtre pour le coup. Encore une, il y a eu moins de metteuses en scène, c'est en train de changer, mais des professeurs au théâtre, des femmes professeurs au théâtre. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Catherine Hegel, j'ai eu la chance d'avoir Madeleine Marion, j'ai eu la chance d'avoir Joséphine de Rennes, et j'ai jamais pris leurs paroles comme étant un peu plus légères, ou bon, oui, qu'est-ce qu'elles peuvent m'apprendre à moi qui vais jouer des grands seigneurs de guerre, qu'est-ce qu'elles peuvent en dire? Elles étaient exceptionnelles de pédagogie, de talent, voilà.
Quand je regarde les différentes mises en scène qui ont été proposées donc dans cette programmation que vous avez conçue à la Comédie Française, Éric Ruff, finalement il y a aussi une continuité sur ce que vous dites à l'instant. Il y a un questionnement en fait en filigrane de la virilité. C'était une idéologie un peu meurtrière dans votre mise en scène de Roméo et Juliette. C'était quelque chose qui provoquait l'ensemble des désastres. Si on pense à la risible ascension d'Arthur Huy, de Brecht, on est donc sur cette caricature d'Hitler, et c'est qui fait des touchés de son sexe complètement drôlatiques, mais on sent qu'il y a une question qui se pose là. Et puis, évidemment, dans les années d'après Le Seigneur de Visconti d'Ivo Van Hove, c'était aussi présent. Est-ce que c'est quelque chose comme ça que par le théâtre, vous questionnez par votre programmation, par vos mises en scène, de façon latérale, puisque vous n'êtes jamais frontal dans vos analyses?
Moi, je ne suis pas quelqu'un de militant, donc j'ai toujours du mal à assumer le fait de j'ai voulu ça pour dire ça, etc. Oui. J'ai conscience qu'il y a des théâtres. J'ai conscience qu'il y a à la Comédie Française des acteurs exceptionnels qui savent jouer tous les théâtres. Quand vous voyez Elsa Le Poivre passer Lucrèce Borgia à La Règle du Jeu au Danet, c'est à Delphine et Marinette, on s'est dit, bon, voilà, elle est juste, voilà, elle est là, donc il n'y a qu'à s'en servir d'une certaine manière. Il y a des ateliers qui sont capables d'épouser toutes les esthétiques et qui ont les manières de faire, donc plus j'ouvre la chose et mieux c'est. Et moi, je ne saurais pas. Ou bien je suis trop curieux, ou bien j'ai pas assez de personnalité, mais tout m'intéresse d'une certaine manière. J'ai vraiment du mal à me dire ça c'est pas bien, j'ai envie de tout explorer. Donc j'ai tendance à suivre aussi les désirs des metteurs en scène. Mais j'ai conscience que le théâtre c'est un de mes intérêts, et quand c'est pour ça que je vais au théâtre aussi, un de mes intérêts c'est que ça me raconte le monde différemment, le théâtre. Je ne sais pas si c'est la bulle de temps pour y aller, la bulle de temps au milieu, ce temps-là, on n'en est pas maître. Encore une fois, on ne peut pas zapper au théâtre, on ne peut pas se lever pour aller chercher une bière dans le frigo. On est condamné de temps en temps à un certain ennui, et derrière ce certain ennui, il y a quelquefois des vérités, des plaisirs qui viennent qu'on n'aurait pas si on se levait tout de suite. Voilà, il y a cette capacité d'inactuel dont parle Françon aussi. Il y a un théâtre politique, il y a un théâtre de réaction, mais par essence, le théâtre a du mal à réagir tout de suite parce qu'il faut le construire. Parce qu'il faut que des gens se réunissent, parce qu'il faut qu'ils soient mis en scène, il faut que on parle du sens qu'on veut donner, parce qu'il faut faire des costumes, parce qu'il faut faire du décor, parce qu'il faut le communiquer, parce qu'il faut que les gens viennent, parce que ça fait partie d'une économie, etc. Et donc, on finit par parler des choses avec du retard. Mais ce retard fait que la lecture qu'on nous en propose est peut-être un peu moins manichéenne, un peu moins sous le diktat de l'urgence, de voilà, les chaînes d'information que nous avons. On remarque quand même tous que quelque chose est dit le matin et martelé jusqu'au soir, où on s'aperçoit que finalement la chose du matin était fausse, on s'en excuse à peine, mais il fallait de toute façon dire quelque chose. Là, on tombe pas dans ce biais-là, parce que tout d'un coup, ça réagit, hein, le théâtre réagit plus finement, plus profondément sur l'atrocité des attaques de Charlie Hebdo. Dans toutes les salles, on a fait des annonces, évidemment. Nous, on jouait Tartuffe, le faux dévot. Alors c'est sûr que ça parle. Mais les copains m'ont dit, on n'a jamais eu une écoute comme ce soir-là. Alors je me suis dit, bon, bah oui, c'est Tartuffe. Et tous les copains de tous les théâtres m'ont dit ce qu'ils jouaient et ont tous dit, on n'a jamais eu une telle écoute que ce soir-là. Et Arturo VIII, quand on le jouait,
il y avait des gens... On était dans l'entre-deux-tours, on était pendant les présidentielles.
Qui criaient à la fin, vive la République, pendant les applaudissements. Bon, on se dit, oui, il y a quelque chose qui répond. Dans Lucrèce Borgia que je jouais, il y a un moment où Lucrèce Borgia répond à son mari, cela est bon à dire au peuple, mais entre vous et moi, nous savons ce que c'est. Voilà, cette phrase-là... elle faisait beaucoup plus rire dans l'entre-deux-tours que maintenant et qu'avant. C'est-à-dire que l'acuité politique de nos oreilles, tout d'un coup, comment on lit le théâtre de répertoire par rapport à ce qu'on vit, il y a une espèce d'aller-retour comme ça, mais qui n'est pas institué, qui n'est pas organisé, qui est laissé libre à notre conscience collective et que je trouve donc utile. Je dis pas qu'elle est mieux, mais elle est très utile. Et il me semble que c'est une des grandes forces du théâtre, c'est que ça nous parle par un autre biais. Voilà. Ça nous laisse le temps de la réflexion. C'est comme quand on nous dit va faire un tour, on en reparle, va faire un tour. C'est comme si le théâtre nous faisait faire ce tour-là tout le temps. Donc on en ressort et on y revient les esgourdes un petit peu plus, on est un peu plus intelligent, intelligible, capable d'intelligence. Je ne sais pas comment dire ça, mais on est un petit peu plus à recevoir. Et puis les poètes sont quand même des gens. Qui se posent des questions plus qu'ils ne veulent nous asséner leur vérité. Donc il y a une espèce de... La table de réflexion est un chouïa plus généreuse, c'est un peu plus open bar quand même au théâtre.
Voilà. On va devoir fermer le bar dans peu de temps, donc peut-être une question d'abord pour conclure, Éric Ruff, dans cette masterclass. Vous avez un horizon 2020 qui est d'avoir une salle modulable pour la Comédie Française qui serait aux Ateliers Berthier. On sait que c'est vous, après 23 ans d'absence de la Comédie Française à Avignon, qui avez un peu réconcilié cette tradition avec donc les derniers d'Ivo Van Hove qui a été présenté. Quelle postérité un peu vous dessinez dans votre œuvre d'administrateur à la Comédie Française, et qu'est-ce qu'il y a à l'horizon des années à venir et de cette rentrée?
C'est un fantasme toujours de penser qu'on change les choses. Si déjà on fait en sorte qu'elles continuent, c'est déjà bien. Il faut déjà pas mal de muscles pour le faire. Je fais strictement ce qu'ont fait tous les administrateurs de cette maison, à savoir que c'est une maison de mémoire qui a la chance d'être mise au présent tout le temps. Donc c'est une maison où tout d'un coup la lecture du présent à l'aune du passé à l'aune du présent est possible. Donc j'essaye avec mes qualités à moi, d'autres ne les avaient pas, en avaient d'autres que je n'ai pas moi-même, mais avec mes qualités à moi, j'essaye d'organiser ces mariages fertiles. Ensuite, oui, la Cité du Théâtre est une chose importante pour la Comédie Française. Je vous décrivais le miroir un peu pas facile à traverser d'un théâtre à l'italienne, parce que c'est des architectures faites pour impressionner et que certains répertoires ont besoin d'être partagés et pas être simplement faits pour impressionner. Donc tout d'un coup, avoir un lieu où l'espace public et l'espace privé se mélangent, où l'acteur partage le même air et la même lumière et le même sol que le spectateur, il y a quelque chose d'une pédagogie plus grande. Il y a quelque chose, un échange immédiat beaucoup plus simple. Donc ces lieux-là, on ne les a pas. On est toujours dans une architecture avec une séparation et puis un Etienne qui fait des cothurnes naturelles et qui nous met, nous, dans une position hégémonique et le public dans une position écoutante et pas partageante. Donc, on a besoin de cette chose-là, et cette chose-là est en train d'arriver. J'espère bien que le nouveau gouvernement confirmera ce grand projet.
Thank you.
C'était la masterclass d'Éric Ruff avec Mathilde Serrel. Attaché de production, Mathieu Maroudin. Coordination, Arnaud Laporte. Réalisation, Olivier Guérin.